aujourd'hui à Washington.
Et Kabadou avec vous en direct de Washington pour Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30 en temps universel. Bonsoir à tous, voici les titres. Édition spéciale sur le report des élections en République démocratique du Congo, 30 décembre. Législative au Togo, les électeurs ont voté dans le calme et sans l'opposition. Au Sénégal, le procès de Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, s'ouvre ce jeudi devant la Cour suprême. Ne manquez pas dans 15 minutes l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Direction la République démocratique du Congo pour cette édition spéciale. À 3 jours du vote, Corneille Nangaa, président de la CENI à Kinshasa, vient d'annoncer le report de l'élection qui était prévue dimanche à la date du 30 décembre lors de la conférence de presse qui vient de s'achever. Extrait de sa déclaration.
Étant donné le fait qu'on ne peut organiser les élections générales directes sans la province de Kinshasa et sans les électeurs kinois, soit 10% de l'électorat national, la deuxième hypothèse de l'inclusion de Kinshasa a prévalu sur celle de son exclusion. L'alinéa 2 de l'article 52 de la loi électorale impose que le vote pour les scrutins directs se tienne le dimanche ou un jour férié. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018. Les ajustements occasionnés par ces décalages feront l'objet d'une décision subséquente qui sera rendue publique ce soir par la commission électorale indépendante.
Vous venez d'entendre Corneille Nangaa, président de la CENI à Kinshasa. Thierry Kabundi de Top Congo, notre station partenaire à Kinshasa, a assisté à la conférence de presse. Bonsoir Thierry Kabundi, comment s'est déroulée cette journée pleine de surprises?
Bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique. Une journée sous tension avec la CENI qui a d'abord annoncé la communication du président de la CENI à 10h. Puis cette rencontre avec la presse a été renvoyée à 15h, parce qu'entre 10h et 15h, une tripartite a été organisée entre d'une part la CENI, de l'autre le gouvernement de la République et le CENSA, parce que l'accord de la Saint-Sylvestre a prévu que pour tout report ou tout problème dans l'organisation de la CENI, il fallait absolument passer par une tripartite. La tripartite a eu lieu au Palais du Peuple dans l'avant-midi. Par la suite, le président de la CENI a rencontré quelques candidats présidents de la République ou leurs délégués qui étaient sur place à Kinshasa pour leur faire part des difficultés qu'ils rencontraient pour tenir la date du 23 décembre 2018 dans l'organisation des élections. Après cette série de rencontres, on a appris également qu'il a échangé avec la CENCO. Le président de la CENI est allé se retrouver en plénière avec son bureau et les autres membres de la CENI. Et pendant que la presse était déjà convoquée, était déjà au siège de la CENI, cette rencontre a pris beaucoup, beaucoup de temps pour finalement se tenir vers 17h passées. Donc voilà, les journalistes étaient sous tension. Toute la nation et le monde entier d'ailleurs avaient des yeux rivés vers la CENI. Et finalement, c'est peu avant 17h30 que Corneille Nangaa fera son entrée dans la salle Abbé Maloumali pour faire cette annonce dont vous venez de passer un extrait. Donc la tension était très palpable. Merci. Mais déjà 2 heures ou 3 heures avant la communication du président de la CENI, certains candidats présidents de la République à travers...
Merci, nous y reviendrons. Merci beaucoup Thierry Kabundi. Notre envoyé spécial Abdourahmane Dia, vous êtes sur place. Comment réagit les Kinois face à ce report des élections?
Oui, il faut dire que des violences ont été signalées à Limete, où se trouve le siège de l'UDPS de Félix Tshisekedi, avec des pneus brûlés et des affrontements avec la police. Donc des violences ont également été signalées à Lemba, la commune voisine de Limete, un peu plus tôt, avant même l'annonce officielle du report. Des étudiants de l'université de Kinshasa, UNIKIL, ont perturbé la circulation dans cette zone. Nous étions également au quartier de Kassavubu, où des militants de l'opposition ont fait part de leur colère. Je pense qu'on peut écouter quelques-uns d'entre eux.
Écoutons. Vous avez recueilli quelques réactions, on va pouvoir les écouter.
J'en appelle aussi à la communauté internationale. Pour que la communauté internationale ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Nous arrivons, le Congolais vient d'arriver à un moment très crucial et très dangereux. Nous savons que Kabila va faire sortir sa milice pour tuer les Congolais qui vont se manifester conformément à l'article 64 de la Constitution. Donc, je demande à la communauté internationale de ne pas nous abandonner, de nous protéger. Le régime actuel n'a pas cette volonté d'organiser les élections. Et les élections, mais si réellement ils avaient cette volonté d'organiser les élections, en tout cas, ils pouvaient bien le faire bien avant. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce que le régime actuel, c'est un régime qui n'avait pas cette volonté d'organiser les élections.
Pour nous, ce n'est pas une surprise. Nous savions déjà que la CENI n'était pas prête pour les élections. Et quand nous disions que nous irions aux élections sans machine à voter, c'est parce que nous savions qu'il n'y aurait pas de machine, il n'y aurait pas seulement de machine à voter. Et quand nous avons constaté qu'ils veulent utiliser notre position comme prétexte, c'est alors que nous avons dit nous allons aux élections avec la machine à voter. Maintenant qu'ils disent de reporter la machine, les élections, nous ne sommes pas d'accord. Nous, les élections, c'est le 23 décembre. Le 23 décembre, nous irons devant les bureaux de vote pour voter. Il n'y a pas question de report. Nous ne pouvons pas trouver ces prétextes.
Oui, nous, en cas de la jeunesse, nous parlons pour la jeunesse. Nous, on est déjà fatigués de ça. Ils veulent nous prendre comme des marionnettes. Nous, on ne veut pas des reports des élections. Nous, on attend le 23. Le 23, on va aller voter. Et on a besoin de changement. C'est ce que nous, on veut. La jeunesse a besoin de changement. Donc, le 23, on part voter.
Réaction également auprès des candidats. Idriss Fall a recueilli la réaction de Tryphon Kinkié Moulumba, un des 21 candidats à la présidence de la République démocratique du Congo.
Beaucoup de tristesse et beaucoup d'incompréhension et un sentiment de révolte parce que jusqu'à présent, M. Nanga nous avait assuré qu'il maîtrisait toute la situation et que les élections auraient lieu absolument le 23 décembre. Et aujourd'hui encore ce matin, tout son cabinet prétendait que rien ne pouvait faire bouger cette date. Il y a eu beaucoup d'arrogance et malheureusement aujourd'hui on se rend compte que les arguments avancés par Nanga ne tiennent pas la route et on parle de la destruction de ce stock de matériel à Kinshasa. Écoutez, on n'en connaît pas encore. Aujourd'hui, personne n'a pu avoir la preuve de cette destruction. Eh bien, et puis, on ne comprend pas. C'est vraiment l'incompréhension, c'est un sentiment de révolte. Et on est en train de voir que sur les campus, dans l'opinion, eh bien, il y a une révolte réelle. La tension est montée de plusieurs camps.
Il faut dire que le président de la CENI avait préparé l'opinion car il a tenu à rencontrer tous les candidats ou leurs mandataires. Théodore Ngoy, l'un des candidats interrogés par Eddy Senghou.
La CENI nous a informés de ces difficultés techniques. Je vais user du vocabulaire dont s'est servi le président de la CENI. La CENI se trouve dans l'incapacité technique d'organiser les élections au 23 décembre. Nous avons échangé bien sûr sur ces conséquences et nous avons dit, en accord avec Martin Fayulu que vous avez cité, qui lui est dans le Bas-Congo, avec qui on est en contact, nous, quand je dis nous, c'est-à-dire moi, candidat président de ligne numéro 12 et beaucoup d'autres candidats qui font partie du collectif, nous avons dit qu'il est nécessaire qu'il y ait une ultime concertation avec la CENI, ultime concertation que nous avions déjà demandé par écrit. Et de cette concertation, de cette ultime concertation, c'est là, à cette ultime concertation, que nous allons donner maintenant notre position après avoir eu cette information selon laquelle le report est nécessité pour des raisons techniques. Entre-temps, nous allons nous concerter. Et lors de cette rencontre, nous allons examiner toutes ces conséquences-là du point de vue politique aussi et même technique. Il nous a dit qu'il a besoin de reporter pour quelques jours parce que techniquement, il ne sait pas organiser les élections crédibles, démocratiques, libres et transparentes le 23 décembre, donc ce dimanche. Il peut les organiser un peu plus tard.
Théodore Ngoy, l'un des candidats à la présidence de la République démocratique du Congo. Notre correspondant à Goma, Charlie Kasereka, est avec nous. Bonsoir Charlie Kasereka. Comment est vécue cette annonce à Goma?
Bonsoir. Un peu l'information vient d'attomber. et dans cette soirée. Et heureusement ou malheureusement, dans la ville, il y a une forte pluie et tout le monde est un peu enfermé chez lui. Alors on se demande si comment sera maintenant le matin, parce que l'information était attendue depuis hier. Il y avait des rumeurs qui circulaient, sans dire que les élections seront reportées, mais la CENI vient de les confirmer ce soir. Donc on attend voir demain matin comment la ville va se réveiller, mais actuellement là, une forte pluie à Goma peut-être sauve la situation. On ne sait pas si il y aurait des soulèvements ou manifestations. Donc, on attend voir avec émeil d'observateurs.
Merci beaucoup, Charlie. En direct également avec nous, notre correspondant Narval Mabila. Bonsoir. Comment les habitants de Lubumbashi accueillent ce report qui vient de tomber?
Voilà, pour les bourgeois, c'est la grande déception. C'était des rumeurs et maintenant, c'est la confirmation. Le Grenier Manga vient de confirmer le rapport des élections, et c'est la plus grande déception parce que les gens déjà s'attendaient. Il y avait déjà des rumeurs qu'on pouvait reporter les élections, mais avec cette confirmation, c'est la plus grande déception. Mais les gens n'acceptent pas. Ils sont décidés. Pour certains, ils veulent que ça s'organise pour le 23. Sinon, ça sera des reports en report. Et du fait aussi que lors de l'annonce, déjà, Madame n'a plus été au rendez-vous et les gens se sont tous dispersés, sont rentrés directement à la maison. Et déjà, nous, comme on a annoncé que Kinshasa est presque militarisé, l'arrivée de contingents militaires, nous venant, je crois, de Kitema et d'ailleurs. Et on a senti aussi que Lubumbashi avait la présence de certains policiers militaires aussi, et qui fait aussi la panique. Mais bon, pour certains militants, ils disent qu'ils attendent les mots d'ordre de leur leader pour voir ce que ça sera, parce qu'on ne peut pas demain ou après-demain. Mais sinon, les méchants vraiment sont très très déçus. Mais entre-temps, dans plusieurs endroits, certains candidats continuent à battre campagne. Quand on signale que les gens sont en train d'accompagner leurs candidats.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, Narval Mabila. On est déjà obligé de s'interrompre pour continuer.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Autre élection au Togo cette fois, les Togolais ont voté ce jeudi pour élire leurs représentants au Parlement. Au total, 8490 bureaux de vote ont été mobilisés pour permettre aux 3,155,837 électeurs d'accomplir leur devoir civique. Une élection qui s'est déroulée dans le calme pendant que notre correspondante à Lomé a fait le tour de quelques centres de vote dans la capitale togolaise. Voici le reportage de Kay Lawson.
16h temps universel, les bureaux de vote sont fermés. Place au dépouillement des bulletins sous le regard de quelques électeurs. Les législatives de ce 20 décembre n'ont pas drainé grande foule à Lomé, constat fait dès l'ouverture des bureaux de vote. Duke Herman Kidabili, président du bureau de vote 2 du centre lycée Hedranawe à Lomé.
Il n'y a pas assez d'affluence, je me dis ça doit être le stress de la population. On n'a pas eu de problème ni avec les candidats, ni avec les membres du bureau de vote. L'organisation se passe très bien.
L'une des considérations politiques, affirme-t-il, ces Togolais sont venus voter pour des raisons particulières.
Je suis venu, je n'ai même pas duré avant de voter. Le bien-être de notre pays, c'est pour ça que nous sommes venus. Nous voulons l'épanouissement du pays et main dans la main.
Je suis très fier d'avoir accompli mon devoir civique. Voter n'est pas un acte politique, mais c'est un acte citoyen. En tant que bon citoyen, j'étais fier d'accomplir mon devoir civique.
On doit voter pour que vraiment ça change. On veut le changement, ça doit changer, ça c'est clair.
Les deux primaires finis, place à la compilation des résultats. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, appelle les Togolais au calme en attendant les résultats. Kojona Kadanga.
Je voudrais en appeler à la responsabilité des uns et des autres. Que nos concitoyens ne se laissent pas distraire par les réseaux sociaux, qui ne cèdent pas à la psychose. Nous allons recevoir de nos démembrements les PV physiques. Ces PV proviennent des confirmations qui résultent des dépouillements des BV qui est centralisé dans les CENI. Donc, la CENI a 6 jours au plus tard pour proclamer les résultats provisoires.
Les législatives de ce 20 décembre ont été supervisées par 3,418 observateurs, dont 203 internationaux venus des institutions comme l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, le Conseil de l'Entente et la CENSAD. Une élection qui s'est déroulée à Lomé sans incident, sous grande surveillance militaire. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Le Gabon bénéficiera de 99 millions de dollars du FMI dans le cadre d'un prêt triennal consenti l'année dernière. Ces fonds serviront à mettre en œuvre le programme des réformes économiques du gouvernement visant à rétablir la stabilité macroéconomique et à jeter les bases d'une croissance inclusive. Ce programme veut aussi assurer la viabilité de la dette gabonaise au niveau national et à contribuer à la stabilité extérieure de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale à laquelle appartient le Gabon. La Zambie, deuxième pays producteur de cuivre d'Afrique, prévoit d'introduire de nouveaux droits miniers, de remplacer la TVA par une taxe sur les ventes et d'augmenter les redevances à compter de janvier 2019. Ces mesures visent à réduire la dette publique croissante. Le gouvernement estime que les recettes de la taxe minière pourront ainsi atteindre 1,3 milliard de dollars en 2019 contre 800 millions de dollars cette année. Toutefois, le régime proposé fera en sorte que plus de 58% des producteurs de cuivre de la Zambie seront dans une position déficitaire aux prix actuels, ce qui inquiète les opérateurs. Terminons avec le Soudan où des centaines de personnes manifestent dans plusieurs villes contre la décision du gouvernement d'augmenter le prix du pain de 1 à 3 livres soudanaises. À Khartoum, Port-Soudan, Atbra et Noud, des manifestants criaient « non à la cherté de la vie, non à la faim ». Des commerces ont fermé leurs portes après la décision des autorités provoquant une pénurie de pain depuis 3 semaines. Avec une inflation de près de 70%, la plongée de la livre soudanaise face au dollar américain, le coût de certaines denrées a plus que doublé au cours de l'année écoulée.
Place à présent à notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous.
Kalidou Koulibaly ne bougera pas cet hiver.
Oui, son club Naples a tranché. Le président du club italien, Aurelio De Laurentiis, a scellé le sort de l'international sénégalais dans les colonnes du Corriere del Mezzogiorno. On ne vendra pas Koulibaly en janvier, a assuré le dirigeant, avant de nuancer, je cite, « Mais le moment viendra où l'on ne pourra pas refuser une autre offre indécente. Manchester United aurait proposé 105 millions d'euros, mais le Napoli a fixé la barre à 150 millions pour Kalidou Koulibaly. Désormais reconnu comme une référence à son poste, le défenseur central est courtisé par les plus grands clubs européens. »
Bonne nouvelle pour le Marocain Belanda.
Et oui, touché au jischio jambier en sélection le 16 novembre et annoncé indisponible jusqu'en 2019, Younes Belanda est en avance sur son temps de rétablissement. Le milieu offensif a repris l'entraînement avec Galatasaray et le Marocain pourrait postuler à une place dans le groupe qui défiera Sivasspor dimanche pour le dernier match avant la trêve hivernale.
Ligue Swatini, ex-Swaziland, a un nouveau sélectionneur.
Il s'agit de Costa Papic, passé à la tête des Orlando Pirates entre 2004 et 2006. Le Serbe prend désormais la tête de l'Iswatini. Il a signé un contrat d'un an et remplace l'intérimaire Anthony Mdouli, qui était en charge des Silangou depuis une année. Papic fera ses débuts sur le banc à l'occasion du déplacement en Tunisie au mois de mars prochain lors de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Un match sans enjeu pour les deux équipes. La Tunisie est déjà qualifiée pour la CAN et l'Iswatini éliminée.
La Belgique et le Sénégal terminent l'année en tête du classement FIFA.
En Afrique, le Sénégal est repassé devant la Tunisie le mois dernier et les Lions de la Teranga finissent en 2018 en tête comme l'année passée. Les Aigles de Carthage sont deuxièmes devant le Maroc qui complète le trio de tête. Au niveau mondial, la Belgique, troisième de la dernière Coupe du Monde, devance les champions français tandis que le Brésil referme le podium. Leader il y a un an à la même époque, l'Allemagne pointe à une triste 16e place à l'issue des derniers mois difficiles et d'un mondial chaotique.
Merci à vous. Et Kabadou, toujours avec vous, place à présent au dossier du jour. Et on commence avec le Burkina Faso, où des centaines d'élèves et d'enseignants ont abandonné les classes depuis la rentrée d'octobre dans l'est du pays. Ils ont fui cette zone infectée par les activités des groupes terroristes. Beaucoup se sont réfugiés à Fada, grande ville de l'est. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Dans la cour de l'école primaire de Vassoundi, située au centre-ville de Fada, des groupes d'élèves grouillent ça et là. Parmi eux, certains qui ont dû fuir les écoles de leur village pour se retrouver ici. C'est aux enseignants qu'échoit la mission de les insérer dans ces moments difficiles, explique Ismaël Nadjouari, enseignant titulaire de cette école.
C'est vrai, rien que dans la commune de Matiakwali, il y a plus de 200 élèves qui ont été déportés à Fadaville ici, voilà, éparpillés dans les différentes écoles. Dans ma classe précisément, j'ai 3. Au total, nous avons 7 enfants venus de Matiakwali.
Matiakwali, une des communes de la province du Gourma, où les terroristes ont instauré la psychose au sein des habitants. Depuis des mois, les écoles se ferment les unes après les autres, comme ce fut le cas ici à Namungu. Le seul bruit d'une moto provoque la hantise, assure ce responsable sous couvert d'anonymat.
Si c'est la peur seulement, cela ne va pas trop longtemps au dehors. Actuellement à Namungu, les enfants ne viennent même pas à l'école comme ça. Ça reprend un peu, mais pas comme avant. Même si on est en classe, et puis bon, on entend des motos qui passent comme ça. Les regards retournés vers là-bas, c'est à fait même des musiques qui reviennent.
C'est ainsi la psychose dans toute la région. Plus rien ne marche comme avant, soupire le maire adjoint de la commune de Fadel Ngourouma, Fadel Chambiano.
Nous avons un certain nombre de bailleurs qui se voient un peu réduire leur champ d'action dans la région pour ces mesures sécuritaires. On avait affaire à des bandits qui avaient peur de l'arrivée des forces de sécurité. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont à mesure d'utiliser des armes de guerre, des explosifs et qui sont prêts pour affronter les forces de défense.
Plusieurs enseignants ont reçu l'injonction des terroristes d'enseigner l'arabe à lieu et place du français. Ismaël Nadjouari.
Actuellement, nous sommes dans une situation où tout le monde est désemparé, élèves, parents d'élèves, enseignants. Donc, à tout moment, chacun se dit qu'il peut être victime de la situation. Il n'y a pas quelqu'un qui est actuellement dans la quiétude.
De nombreuses écoles ont été brûlées dans la région par des présumés terroristes. Le colonel Ousmane Traoré est le gouverneur de la région de l'Est.
Les zones où les écoles sont brûlées, c'est essentiellement la commanderie. Il y a quelques cas résiduels vers la Rompienga et vers la Dakoua. Maintenant, les écoles se faire, même quand il n'y a pas de dégâts, parce que les gens, quand ils apprennent ce qui s'est passé à la Koumandiari, qu'il y a des bandits qui sont venus tourner autour d'une école, ça crée une certaine panique et les parents demandent à leurs enfants de ne pas aller à l'école parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer.
Une situation fâcheuse pour laquelle des stratégies sont en cours, rassure le maire adjoint Fadel Chambiano.
Des rencontres stratégiques se mènent autour donc, des premières autorités dans le but de voir comment rassurer le personnel du cadre enseignant afin de pouvoir continuer les services.
Depuis l'intensification des attaques terroristes au Burkina Faso, environ 600 à 700 écoles, selon plusieurs sources, ont dû fermer sur l'ensemble du pays en raison des risques encourus par les enseignants et les élèves. Issana Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Niger, face à la montée des attaques terroristes dans la région de Tillabéri frontalière avec le Mali et le Burkina Faso, le gouvernement a prorogé de 3 mois la mesure d'urgence en vigueur dans certains départements de cette région. La mesure a même été étendue à d'autres localités jusqu'ici pas concernées. Les populations de la région s'inquiètent de la situation, surtout qu'aucune mesure d'accompagnement ne suit l'instauration de cet état d'urgence. Détail avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Nous, population de Tillabéri, réunis ce jour, faisant la déclaration dans la teneur.
C'est au lendemain du vote par le Parlement d'une loi prorogeant pour 3 nouveaux mois l'état d'urgence dans 10 des 13 départements que compte la région de Tillabéri que cette déclaration a été rendue publique.
L'état d'urgence rend beaucoup service à ces malfrats qu'aux populations qu'il est censé protéger. En effet, la restriction des mouvements des citoyens et la fermeture de plusieurs marchés accentuent la pauvreté ambiante et la frustration des populations. Sur le plan sanitaire, les évacuations nocturnes sont impossibles. Dans le domaine de l'éducation, la restriction des mouvements des enseignants contribue à la perte du temps scolaire. Rappel au gouvernement que le seul fait d'instaurer l'état d'urgence sans mesure d'accompagnement ne saurait être un moyen de dissuasion de ces forces obscurantistes.
La dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri a été évoquée par le chef de l'État Issoufou Mahamadou dans son message à la nation à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de la République le 18 décembre dernier.
Voilà 60 ans que nous sommes en République. Pendant cette période relativement longue à l'échelle de la vie humaine, notre pays a connu des épreuves, il en connaît encore, notamment face au terrorisme et au crime organisé. La région de Tillabéri, où sera organisée le 61e anniversaire de la République, frontalière du Mali et du Burkina Faso, année particulièrement affectée. Je fonde l'espoir que nous créerons les conditions de restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble de notre territoire et en particulier dans cette région, afin que le prochain anniversaire s'y déroule dans la joie et l'allégresse.
Depuis quelques mois, cette partie du territoire nigérien qui fait frontière avec le Mali et le Burkina Faso est l'objet d'attaques de groupes terroristes et djihadistes avec d'importantes pertes en vies humaines, aussi bien civiles que militaires. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, le gouvernement a décidé de venir en aide aux communes situées le long des frontières du Nigeria et de la République centrafricaine. Ces dernières années, le niveau de pauvreté s'y est aggravé en raison de l'afflux des réfugiés des pays voisins. Le gouvernement compte apporter des solutions aux problèmes de développement dans lesdites localités. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
Actuellement, dans ma commune, une salle de classe fait contenir 250 élèves.
Esther Doué-Yafoué est maire de Garoua-Boulaye, dans la région de l'Est du Cameroun, à plus de 580 km de Yaoundé. Cette localité partage une longue frontière terrestre avec la République centrafricaine. L'arrivée massive des réfugiés centrafricains dès 2015 a fait naître un problème que la maire de Garoua-Boulaye peine à résoudre.
Ces réfugiés sont beaucoup plus nombreux en âge extrascolaire, ce qui fait qu'ils sont en train de profaner l'insécurité dans notre localité.
Dans le nord du Cameroun, la commune de Toubouro compte officiellement 20 000 réfugiés. Tous sont centrafricains. Malgré l'ouverture d'un bureau du ACR en novembre 2017 dans la ville, Toubouro peine à gérer cette surpopulation.
On s'est retrouvé des effectifs dans des salles de classe qui sont passés du simple au triple.
Célestin Yandal, maire de Toubouro.
Les besoins principaux sont les besoins de construction d'infrastructures scolaires. Et en plus des infrastructures, les populations sont vulnérables, ont besoin de vivre, les petits métiers qu'on peut créer.
L'urgence de doter ces communes frontalières au Nigeria, à la République centrafricaine, d'un programme de développement économique a amené l'Union européenne et le gouvernement camerounais à octroyer 13 milliards de francs CFA à ces localités exposées à certains facteur de stabilité. Gilbert Yama, maire de Mogodé, dans la région de l'Adamawa.
Ce financement vient renforcer la résilience des populations qui ont fait face aux activités de la secte Boko Haram. Du coup, leur condition de vie a été désaxée parce qu'on retrouvait dans une famille peut-être de 2 ou 5 personnes, plus de 20-30 qui s'ajoutent. Et le problème sur le plan social également est énorme. Et avec ce financement, nous pensons que leur prise en charge sera vraiment réassurée.
Les projets à financer seront identifiés par les maires de ces communes selon leurs priorités. Le gouvernement souhaite cependant qu'un accent soit mis sur la promotion des activités économiques. Alamine Ousmane May, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire.
Ces localités vont bénéficier d'un certain nombre de projets, 30 par commune, dans différents domaines. Il s'agit de promouvoir l'activité économique, tant pour les populations déplacées, les réfugiés, que pour les migrants. Et en même temps, permettre à ces bénéficiaires-là de recevoir la formation.
Yaoundé, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Joselle Morissin, à la console, Thomas Blondet, à la présentation, Iki Abadou. Et on reste connecté sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme à l'écoute de VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia Burkina Faso et bien d'autres encore Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.